Bonjour, c'est Chloé Thibault. Je suis journaliste et autrice de la newsletter hebdomadaire La Pause Simone. Une fois par mois, je vous donne rendez-vous pour le Kawa, un long entretien avec quelqu'un qui, à première vue, ne me ressemble pas.
Le Kawa.
Kawa.
Le Kawa.
C'est un café.
Le Kawa.
Le Kawa.
C'est justement de faire du café.
Kawa.
Le Kawa.
Simone, le Kawa. Aujourd'hui, je prends un café avec Paul Vermersch, plus connu sous le nom d'artiste Paulon. Paul a 24 ans, il est musicien et auteur dramatique. Je l'ai découvert l'an dernier grâce à l'une de ses chansons, Vert et Gris, dans laquelle il évoque les violences sexuelles entre hommes. Ces violences, Paul en a été victime, et c'est à travers la musique qu'il souhaite ouvrir une fenêtre de discussion et d'interrogation sur ce tabou. Car oui, c'est un sujet courant, mais rarement abordé. C'est pourquoi j'ai décidé de l'inviter pour en parler. Bonjour Paul.
Bonjour Chloé.
Comment vas-tu ?
Eh bien ça va très bien et toi ?
Ça va très bien. Je préfère le dire en introduction, nous sommes entre Sagittaire.
Entre Sagittaire.
Donc le courant va forcément bien passer. Pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement nous présenter le projet Paulon ?
Le projet Paulon, c'est un projet de musique pop. D'un point de vue esthétique, on est sur une pop. Au départ, c'était vraiment un projet de pop à texte. Et puis, on est doucement en train de dériver sur quelque chose qui est un peu plus expérimental au niveau de la musique. On travaille avec des textures électroniques. Enfin voilà, il y a une recherche un peu expérimentale autour du son. Donc c'est en train de prendre cette voie-là. C'est un projet qui est porté par le label Gender Trouble, qui est rattaché au label Salgos Records, qui est dirigé par Philippe Tuillier du groupe Saint-Michel. Voilà. Et donc moi j'ai commencé à travailler avec Philippe, il y a 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc on a travaillé sur une première track qui s'appelle Ravage, qui est sorti l'hiver dernier, si je dis pas de bêtises. Puis il y en a une seconde qui s'appelle Kyoto Complex, qu'on a sorti au printemps, dont le clip a été tourné au musée Guimet, c'était super ça. Et puis après, on a pris un peu un tournant aussi musical à cet endroit-là, et il y a eu l'expérience Vert et Gris.
Dont nous allons parler. Parce que c'est justement comme ça que moi, je t'ai découvert en mai 2023 avec ce single. Mmh. Et c'est une chanson qui joue sur un fort contraste entre le fond et la forme, puisque musicalement, c'est assez doux, lent, planant, alors que les paroles abordent de façon frontale la question des violences sexuelles. Quelle a été ta démarche avec ce titre ?
Je dirais que j'avais... En fait, c'est quand on aborde ce genre de sujet des violences sexuelles, peu importe que ce soit en musique ou en écriture. Enfin, d'ailleurs, la musique c'est une forme d'écriture. En fait, on se pose toujours la question de comment est-ce que j'en parle. Il y a pas de, enfin, je me suis pas dit, et c'est vraiment dans le processus en fait que je me suis rendu compte en fait que la seule manière moi que j'avais à ma disposition pour en parler, c'était justement quelque chose qui soit frontal mais pas forcément violent, parce que je crois que j'avais besoin de raconter les choses de manière sensible, et donc c'est pour ça que très naturellement je me suis dirigé vers cette track qui commence avec un peu du piano. Enfin, alors non, ça a été remodifié après, donc on est plus sur un espace très éthéré, avec comme ça des pads qui mettent dans une ambiance tout de suite un peu... c'est ça, éthéré, je crois que c'est le bon mot. Puis après, il y a la voix qui rentre, il y a cette voix nonchalante, repitchée vers le bas, qui travaille comme ça dans cette espèce de fatigue. Et je crois que c'était aussi peut-être ça que j'avais envie de mettre en place, quelque chose qui pourrait parler de la fatigue aussi, la fatigue.
Alors, on va tout de suite en écouter un extrait.
Les arbres sont verts, et que quand
dissocier.
Dans le refrain qu'on vient d'entendre, tu chantes « Les arbres sont verts et gris quand je dissocie ». Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, peut-être que pour expliquer, je peux parler un tout petit peu de la dissociation psychique. Donc la dissociation, c'est un état psychique qui peut s'exprimer de différentes manières. Mais en tout cas, tel qu'il est entendu dans la chanson, c'est donc un état dans lequel on a une espèce de... Bah voilà, de... comme son nom l'indique, de rupture entre un peu le corps et l'esprit. Ça se dissocie, on a un sentiment d'irréalité, on a l'impression d'être étranger à son propre corps, on a l'impression que la vie qu'on vit, c'est pas vraiment sa vie. Comme si les informations rentraient en nous, mais que c'était que ça rentrait pas, en fait. Une sorte d'absence, en fait. C'est ça, je crois. Cette dissociation, une sorte d'absence. Alors, il y a plusieurs... je crois qu'il existe vraiment une palette très large de comment est-ce que ça s'exprime concrètement, selon les individus, selon les différents traumatismes, etc. En tout cas, cette phrase, les arbres sont verts et gris, quand je dissocie, moi je l'ai écrite comme ça, parce que je me suis rendu compte que quand je dissociais, j'avais cette même image d'un parc près de chez moi, où il y avait des... C'était vraiment, il y a très longtemps, j'avais pris un verre avec des amis, puis j'étais bien, puis il y avait un temps d'orage, il y avait les arbres qui étaient très verts au fond, qui étaient devant nous, puis il y avait le ciel très gris. Puis ça, voilà, j'ai absolument, au moment où je vivais le moment, à aucun moment je me suis dit que ce moment hyper banal entre amis allait avoir une importance. Et en fait, plus tard, dans des moments de dissociation, c'est cette image qui a été reconvoquée par ma psyché complètement aléatoirement, ou sûrement pas du tout. Mais c'est cette image-là qui a été reconvoquée, cette image des arbres très verts et du ciel très gris. Et donc, tout simplement, quand j'ai pris conscience en fait que c'était cette image-là qui était reconvoquée par ma tête pour comme pallier à quelque chose, je ne sais pas très bien, je l'ai juste écrite. Les arbres sont verts et gris quand je dissocie. Puis en plus, ça rimait, donc pour la chanson, c'était parfait.
Mais la dissociation, c'est un concept de psychologie. Mm-hmm. Et en écoutant ton texte, je me disais que c'est quand même plutôt rare de le retrouver dans un texte de chanson.
Ouais.
Pourquoi est-ce que c'est important, selon toi, d'en parler et même d'utiliser le terme même ?
Alors, pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est plus une question artistique, c'est-à-dire que moi, que ce soit dans mon travail d'écriture de chanson ou dans mon travail d'écriture dramatique, je fais pas de différence entre les différents types de langage. Pour moi, tout type de langage peut être crédité. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un langage dit scientifique ou psychologisant ou quoi que ce soit qu'il a pas sa place dans une œuvre littéraire ou artistique. Je fais vraiment pas de... Si il décrit une réalité qui est une réalité dont on a besoin pour dire quelque chose, je vois pas pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait pas. Alors, ça pose d'autres questions, la question de l'accessibilité, parce qu'effectivement, ça peut être des termes plus techniques. Bon, évidemment, ça pose ces questions-là. Mais du coup, c'est vrai que déjà, moi, j'ai pas du tout un rapport à l'écriture où je vais m'interdire certaines formes de langage, justement, parce que ça appartiendrait à un espace littéraire plutôt qu'un autre. Moi, j'aime beaucoup pouvoir tout mélanger. Et puis, la deuxième raison, c'est pour en parler. En fait, tout simplement pour faire exister cette chose qu'est la dissociation, parce qu'on est très souvent confronté à des histoires d'agression sexuelle. Dieu merci, c'est de plus en plus représenté, on en parle plus. Et c'est vrai que moi, souvent, je me rends compte que dans ce qui est produit autour de ces thématiques-là, on n'a pas forcément accès à ce qui est après. On a souvent accès à la violence de l'acte en lui-même, et c'est très bien. Mais souvent, on n'a pas forcément accès à ce qu'il y a après. Et pour moi, c'était important aussi de dire que la violence de l'agression, elle est évidemment dans l'agression, mais elle est aussi à un autre endroit. Elle est dans l'après, qui dure beaucoup plus longtemps aussi, sur une période de temps beaucoup plus longue. Voilà. Donc c'était évidemment aussi pour parler ça, pour le faire figurer, pour le faire exister. Je crois qu'il y a besoin de faire exister ça.
Oui, parce que bon, là, tu parles en ton nom et à la première personne en disant « quand je dissociais », etc. Donc, je l'avais précisé en introduction, ce titre-là, il est inspiré de quelque chose qui t'est arrivé. Mmh. Est-ce que tu as envie d'en dire un mot ou d'en parler ?
Non, j'ai pas très envie de raconter ce qui m'est arrivé plus précisément parce que c'est vraiment très à moi. Mais par contre, je peux dire que mon expérience, c'est vraiment une expérience très banale. Je crois que c'est très important de dire ça. Un nombre très important des victimes d'agressions sexuelles connaissent leur agresseur sexuel, ce qui a été mon cas. Ça s'est passé vraiment de manière complètement banale. Et je crois que c'est important de parler de cette banalité, parce que pour moi, les agressions sexuelles, c'est vraiment quelque chose qui me... J'ai toujours ce vertige quand j'y pense et quand on en parle, de quelque chose qui est tellement terrible et tellement banal. Et voilà ce que je peux dire plus personnellement, plus intimement sur moi, sur mon agression sexuelle. Elle n'a pas eu lieu dans un parking la nuit. Elle a eu lieu par quelqu'un que je connaissais très bien, que j'aimais beaucoup. Elle, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment complètement comme tout le monde, en fait. Et je crois que c'est important de le dire, ça, à quel point aujourd'hui c'est banal, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux.
Et est-ce que la musique a été ou est toujours d'ailleurs une façon pour toi de sublimer ce que tu as vécu? Ça, c'est un terme aussi qu'on retrouve en psychologie. Je lisais dans un de tes communiqués de presse que c'était, je cite, « une sorte de mise à distance poétique ».
Ouais.
Donc j'avais l'impression que ça pouvait dire sublimation finalement.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que... tout mon espace de création a été contaminé par cette histoire d'agression sexuelle. Je n'ai plus pu que écrire, que ce soit dans mon travail d'écriture dramatique ou dans mon travail d'écriture de chansons, je n'ai plus pu écrire que sur ça. Ça a été aussi extrêmement impressionnant de voir à quel point cet événement a contaminé tous les espaces de ma vie en réalité. Et quand je me suis remis au piano pour recontinuer à travailler, à écrire, je me suis rendu compte que c'était que ça, en fait, qui pouvait exister. Parce que, je sais pas, je pense que j'étais tellement pris là-dedans. Aujourd'hui, ça a changé un peu. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est différent. Probablement parce que j'ai écrit ces choses et que je les ai dites en musique, mais aussi au théâtre. Ça a complètement... Donc, j'avais pas vraiment d'autre choix, en fait, que d'écrire là-dessus. Et je saurais pas vraiment évaluer ça de manière très concrète, mais je crois que oui, ça a opéré. Puisque, de fait, si aujourd'hui, j'arrive à écrire sur autre chose et faire d'autres chansons et faire d'autres pièces de théâtre et écrire sur d'autres sujets, peu importe, en fait, la forme que prend cette écriture... finalement, c'est que oui, ça a dû opérer. Mais effectivement, cette mise à distance, parce que une fois qu'on a produit l'objet artistique, on peut le regarder. Et quand on le regarde, on se rend compte aussi. Et je crois que ça contribue quelque part à l'espace du deuil, ça, de pouvoir voir l'objet et se dire ce que je dis, c'est vrai. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce que je dis, c'est, ça correspond à quelque chose qui fait vraiment écho en moi. Parce que paradoxalement, on peut complètement écrire en dissociant. Moi, je me souviens très bien d'ailleurs de la période où je me suis remis à écrire. Donc là, l'EP qu'on travaille en ce moment, c'est un EP qui va être composé, je crois, de 6 titres. Mais en fait, il est issu d'un travail de chansons qui est beaucoup plus large que ça. Il y a eu beaucoup plus de titres qui ont été écrits, puis au final, qu'on a décidé de garder ou pas. Et en fait, j'ai écrit l'EP en à peu près, je sais pas, 6 mois. Et je n'ai pas de souvenir vraiment de ce travail d'écriture. Alors que là, voilà, en ce moment, je suis sur d'autres travaux d'écriture, en écriture dramatique notamment. Je suis sur d'autres travaux d'écriture et je me vois écrire. Ce que je veux dire, c'est que je me vois travailler, j'ai conscience de moi en travaillant, etc. Mais à ce moment-là, c'est non. Et donc, je pense effectivement que voir l'objet fini, la chanson, puis plus tard le clip, voir l'objet, on prend conscience aussi quelque part.
J'ai évoqué le refrain, mais il y a un autre passage de ton texte qui est assez bouleversant. Donc je vais le lire cette fois-ci. Tu écris « Nos agresseurs ne payent pas la thérapie. Ils recommenceront sûrement vu qu'ils ne sont pas punis. Ils nous font croire que ce n'est pas ça qui arrive, mais ce sont les premiers à savoir ce qu'ils nous ont pris. Puis tu répètes « Mais que fait la police ?» Mais que fait la police ? C'est finalement très, très politique comme prise de parole, non ?
Ouais. Oui, c'est politique, et puis c'est tellement... c'est tellement concret aussi, quoi. C'est-à-dire que tu vis ton agression sexuelle, puis tu sais pas quoi faire, puis tu vas chez le psy, puis après tu découvres que c'est cher, en fait, le psy. C'est chérissime. Donc, moi, j'étais... Donc, t'as ce truc de l'agression, puis après, t'as ce truc du psy, puis après, si tu décides d'aller porter plainte, et on pourra parler un peu de ce que c'est que de porter plainte, mais si tu décides que d'aller porter plainte, t'as tout le système judiciaire, toutes ces choses. Et en fait, c'est plus, ça s'accumule. Mmh. Et c'est incroyable, parce que aussi, c'est ça aussi que je voulais dire avec cette phrase, c'est... je reviens là-dessus, mais l'agression sexuelle, c'est pas que l'agression. Et que fait la police? Oui, effectivement, c'est très politique. Je l'ai pas écrit vraiment. Est-ce que je l'ai écrit dans un truc de provocation ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, ce que fait la police, oui, parce qu'il y a un vertige. Il y a un vertige quand on voit les chiffres.
Oui, parce que tu chantes que fait la police, mais je me disais que la question, c'est aussi que fait la justice.
Oui.
Puisque moi, j'affirme que dans notre pays, le viol est impuni. Selon l'INSEE, en 2020, seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu entends ce chiffre de 0,6%?
J'ai pas de mots. je sais pas comment. En fait, c'est... Vraiment, moi, j'ai vu dans ma vie le bouleversement que ça a été. Et j'ai vu dans la vie d'autres personnes le bouleversement que ça a été de traverser ces expériences terribles. Il n'y a pas d'autres mots. Enfin, si, il y a sûrement d'autres mots. Mais... Enfin, ces expériences, j'ai vu les gens traverser, je me suis vu les traverser, j'ai vu toute l'énergie, tout ce que ça implique pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir prendre en charge la suite des choses, de la vie, pour pouvoir... Et le vertige de voir ce chiffre, il y a vraiment quelque chose qui corrèle pas du tout à cet endroit-là, entre la violence de ce qui est infligé et l'impunité des agresseurs qui continue, puis une impunité qui est complètement systémique. Parce que, bon voilà, là on sort de l'affaire Depardieu, ce sont encore les mêmes mécaniques en fait d'un point de vue systémique qui existent, quoi. On continue à récompenser les agresseurs sexuels, on continue à dire qu'ils font la fierté de la nation, enfin on continue à dire tous ces trucs, et en fait moi ce que je vois là-dessus, c'est l'impunité. Ces gens agressent des gens, violent des gens, et puis tout va bien, on leur donne des prix. Et c'est ce que ce chiffre dit, en fait. Pour moi, en France, aujourd'hui, je peux décider d'agresser sexuellement quelqu'un, et je sais que je ne serai pas puni.
Et tu évoquais le dépôt de plainte. Est-ce que toi, tu avais choisi de déposer plainte?
Alors ça, c'est très difficile.
Tu as évidemment le droit de ne pas répondre.
Oui, Non, j'ai pas déposé plainte. J'ai pas porté plainte. Et je le dis pour peut-être les gens qui vont nous écouter, qui ont connu des situations, qui ont peut-être aussi été victimes d'agressions sexuelles et qui n'ont pas porté plainte. Moi, j'ai pas porté plainte, non. Déjà parce que quand on voit... c'est vraiment l'argument premier qui n'est pas forcément un bon argument en soi. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui serait un bon argument à cet endroit-là, s'il y a-t-il de bons arguments. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on voit le système judiciaire, et tu as à raison cité ce chiffre vertigineusement triste, on n'a pas envie, en fait. Enfin, moi, je n'ai pas envie d'aller raconter ça à un officier de police. Je n'ai pas envie non plus que la plainte soit classée sans suite. Je n'ai pas envie qu'on me dise que je n'ai pas vécu une agression sexuelle. Je n'ai pas envie qu'on... Voilà, que le système, qui est un système aujourd'hui qui n'écoute pas les victimes, qui ne prend pas en charge les victimes... Enfin, moi, je veux bien entendre tout ce qu'on dit sur la politique, de oui, il y a des politiques pour essayer de lutter contre les agressions sexuelles. Je veux bien entendre tout, entendons tout, mais enfin, regardons aussi les chiffres. Enfin, je veux dire, s'il y avait vraiment des... Enfin bon, c'est peut-être un raccourci que je fais, mais s'il y avait autant d'efforts déployés pour lutter contre les agressions sexuelles, Est-ce qu'on aurait ces chiffres-là ? Et surtout, si on avait une vraie conscience de l'impunité quand même de fait qui reste et qui demeure dans notre société, est-ce qu'on continuerait d'ériger des agresseurs sexuels comme figure emblématique du pays ? Ça, je sais pas.
Mais ce que tu dénonces vaut évidemment pour toutes les formes de violence sexuelle, aussi bien envers les femmes qu'envers les hommes et bien sûr les enfants. Mais je tiens à rappeler ici qu'en France, la grande majorité des victimes sont des femmes, 86%, et que les auteurs de violences sont le plus souvent des hommes, 87%. Mais cela signifie donc que les hommes peuvent aussi en être victimes de ces violences et c'est important de l'exprimer. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu des violences sexuelles envers les hommes, commises par des hommes? Est-ce que c'est encore plus tabou que les violences faites aux femmes?
Je crois que c'est très difficile de hiérarchiser si c'est tabou ou non, parce que je crois que ça opère à des endroits différents. Je connais ces chiffres aussi, je me dis, alors évidemment, je pense que j'ai tout à fait conscience que la majorité des agressions sexuelles sont subies par des femmes et commises par des hommes. Mais je me dis, peut-être qu'il y aurait un tout petit peu plus de pourcentage d'hommes si les hommes parlaient un tout petit peu plus.
Bien sûr.
Et je m'interroge sur aussi pourquoi est-ce qu'on ne parle pas. Et je crois que on sait maintenant que le patriarcat, c'est toxique pour tout le monde, et pour les hommes y compris. Mais je crois qu'il y a une performance de virilité, en fait, à cet endroit-là. Il y a quelque chose, je pense, qui... Parce que pour dire qu'on est victime d'agression sexuelle, il faut quand même une certaine dose de vulnérabilité, quand même.
Tu sais, c'est dans ce sens-là que j'employais le mot tabou. Ouais. C'était vraiment, est-ce que pour un homme, il est encore plus dur d'admettre qu'on a été victime de violence ?
L'espace social ne laisse pas les hommes beaucoup s'exprimer sur ce qu'ils ressentent. Les normes masculinistes auxquelles les hommes sont confrontés pour performer correctement ce que c'est qu'être un homme dans une société laissent peu d'espace pour se mettre à nu, parler de ses sentiments, parler de ses failles, parler de ses souffrances, parler de ses limites. Et donc, je crois que, évidemment, dans ce souci de performance-là, il y a évidemment quelque chose, je crois, qui inhibe la parole. C'est plus difficile, en somme, pour un homme de dire « j'ai été victime d'agression sexuelle », probablement parce que, et c'est sûrement pas la seule raison, mais probablement parce que c'est un endroit où il s'expose et où il risque qu'avec les normes de notre société, on le considère peut-être comme faible.
Il y a un clip qui accompagne ta chanson « Vert et gris » réalisé par Navir Argo. L'esthétique est assez minimaliste, mais il est précédé d'un avertissement signalant qu'il contient des images susceptibles de heurter la sensibilité des spectateurs. Finalement, tu n'as pas seulement voulu faire entendre ton message, tu as aussi voulu qu'on regarde cette réalité en face.
Oui. J'aurais pu ne pas. Et puis, si, ça s'est décidé aussi, parce que... Déjà, moi, j'ai jamais vu un clip, et j'ai pas vu tous les clips de la Terre, mais j'ai jamais vu un clip où on le montre. Il y avait un creux à cet endroit-là. Du moins, au moment où on l'a pensé, où on l'a fait, peut-être que maintenant, il y a d'autres choses qui ont été faites. Mais en tout cas, il y avait un creux à ce moment-là. J'avais pas envie d'une forme visuelle qui parle d'autre chose, qui montre autre chose, je crois. J'avais envie qu'on en parle. J'avais envie que ça se voit. J'avais envie que... Bon, ça se voit, et quand même, le clip, même si il suggère, il reste relativement sobre, quand même, dans ce qu'il montre. Donc, on est évidemment sur une suggestion et pas sur une représentation fidèle et concrète. Mais oui, je voulais que ça apparaisse, qu'on sache de quoi on parle, qu'il n'y ait pas de doute. Enfin, évidemment, la chanson ne laisse pas... Enfin, si, peut-être que la chanson est un peu ouverte, et donc peut-être que Voilà, je voulais qu'on soit bien sûr qu'on parle de ça, quoi. Je voulais pas qu'il y ait de possibilité de...
Bon, sur que fait la police, quand même, le message est clair. Mais je sais qu'au moment de la sortie de ton clip, ton équipe et toi aviez voulu organiser un événement et inviter une association pour répondre aux questions sur les violences sexuelles entre hommes. Et donc, si je ne m'abuse, ça a été compliqué de mettre tout ça en place, c'est ça ?
Oui, parce que en fait, on s'est rendu compte que en France, il y a très peu, voire pas, en tout cas nous, on n'a pas trouvé d'association avec qui dialoguer dans un cadre de discussion autour des agressions hommes-hommes. Il y a un creux aussi.
Ça n'existe pas ?
Alors, bon, peut-être que nos recherches ont été défaillantes, je ne veux pas... Mais on a vraiment cherché longtemps et on n'a pas trouvé d'interlocuteur. Il y a des associations... on est tombé sur des trucs. Mais bon, enfin, il y a pas... En tout cas, on n'a pas trouvé d'association qui permettrait de mettre en place un espace d'écoute d'hommes, entre hommes, qui parlent d'agressions sexuelles commises par des hommes.
Ça vient confirmer mon expérience personnelle, puisque la plupart du temps, quand je travaille avec des associations sur ce sujet, elles sont spécialisées sur les violences envers les femmes ou minorités de genre. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça n'inclut pas les violences hommes-hommes.
C'est-à-dire que généralement, ce sont les hommes qui agressent. Donc oui, évidemment.
Mais là, en l'occurrence, ce sont les hommes qui agressent, mais des hommes.
Voilà, aussi. Mais évidemment, je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre du nombre, peut-être, qui fait que comme il y a statistiquement et numériquement beaucoup plus de femmes et de minorités de genre qui sont agressées par des hommes, voilà, il y a des associations qui se constituent peut-être plus facilement. Peut-être aussi que ce qu'on disait sur l'entrave de la parole contribue aussi à cet endroit-là de rendre l'organisation politique plus compliquée. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de s'organiser quand on a un espace social qui accueille ses paroles, que quand on est un homme, on peut dire dans une conversation « je me suis fait agresser » sans que ça ait un impact sur notre représentation de soi trop forte, ou en tout cas qui vienne challenger quelque chose de l'ordre de l'identité. Évidemment que si on avait un espace social qui permettait davantage de recueillir cette sensibilité-là, je pense qu'on pourrait avoir une organisation politique plus dense, ou du moins existante.
Oui. Et de la part des médias, tu as eu des retours qui saluaient les qualités de ta chanson et de ton clip, mais pas grand monde finalement pour en parler ou la recommander.
C'est vrai que les retours, ça a été, très belle chanson, très beau clip. On a eu aussi des bons échos sur le tournant esthétique musical que prenait le projet, avec ces nouvelles textures synthétiques, etc. Et puis évidemment, les gens saluaient aussi le travail qui était fait autour du sujet, mais les gens finissaient toujours plus ou moins par dire... mais c'est compliqué, je peux pas en parler, c'est un peu trop politique, c'est touchy, voilà.
Je vois. Est-ce que selon toi, c'est le rôle d'un artiste de prendre position sur des thématiques comme celle-ci ? Enfin, en clair, est-ce que la musique fait bon ménage avec la politique ?
Pour moi, la politique, c'est... Bon, deux choses par rapport à ça. Déjà, pour moi, la politique, c'est ce qui fait aussi débat. Pas que, évidemment, c'est peut-être une acception un peu restreinte de la politique, mais quand même, je trouve que, pour moi, la politique, c'est ce qui fait débat. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très étrange à dire que les agressions sexuelles font débat. Il n'y a pas d'espace pour être pour ou contre. Enfin, je veux dire, c'est un type de violence.
Oui.
À quel endroit est-ce qu'en fait ça peut faire débat ? Je vois pas très bien où on peut dire... Enfin, déjà, il y a cette première chose. Et puis, par rapport à la politique et à la musique, moi, je crois que le rôle d'un artiste, c'est avant tout d'être sincère, sensible et sincère. Et voilà, je pense que c'est... Justement, pour relier avec mon premier point, moi, quand je parle de ça, je ne cherche pas à faire débat. Je ne cherche pas à... Je cherche à dire quelque chose sur moi. Et je pense que là-dessus, des gens pourront certainement s'y reconnaître ou non. Je ne cherche pas à faire débat. Après, toutes nos existences sont des existences politiques. Donc évidemment que, de fait, la musique, quand elle parle notamment de sujets comme celle-ci, elle devient politique aussi, elle se politise. Moi, oui, je pense que la musique fait bon ménage avec la politique. À cet endroit que la politique, c'est aussi... ça part en tout cas d'une expérience personnelle, comme l'art.
Et tu as en tête, toi, des artistes ou des chansons dites engagées qui ont compté pour toi en tant qu'homme, justement ?
Ben, moi, je dirais que à cet endroit-là, ce sont les chansons qui m'ont peut-être aussi traversé dans leur rapport au sensible. C'est-à-dire que je suis très, très, très sensible, pour me répéter, à justement ces chansons qui ouvrent des portes vers une intériorité de manière un peu débridée, qui laissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Je pense à... En fait, je pense à Body Banane. Et à notamment une chanson qui m'a beaucoup... Il y a deux chansons qu'elle a faites. Flash et Deuil. Et alors, bon, ça attaque pas frontalement... on peut pas dire que c'est frontalement des chansons politiques, mais moi, je trouve qu'il y a dans cette démarche... Par exemple, dans Deuil, il y a cette phrase. J'ai vu des gens crier à tes funérailles. Et ben moi, je trouve ça... Je trouve que cet espace qu'elle libère sur son intimité, il y a tellement de choses qui se disent dans cette phrase, sur cette douleur, il y a tellement de choses qui disent. Je trouve que cet espace qu'elle libère dans son intimité, ce geste qui laisse à ce point voir, à cet endroit, il y a quelque chose de l'intime qui se dégage. Et je trouve que c'est finalement très politique d'accepter d'être à cet endroit de l'intimité et du personnel dans cette société qui tend à tellement uniformiser. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'attrape très fort dans cette démarche parce que c'est tellement, tellement individuel mais tellement sensible.
Là, avec cette chanson, tu évoques le deuil. J'ai le sentiment que la santé mentale est un sujet de plus en plus abordé, non seulement dans les chansons, mais aussi en interview par les artistes. Alors, pour être un peu mainstream, là, je pense à Stromae ou Billie Eilish. Est-ce que c'est important, selon toi, qu'on en parle enfin de la santé mentale ?
Oui. Je pense que... Moi, je ne vois pas ça comme une... Il y a des gens qui disent que c'est une mode. Moi, je trouve que c'est une évolution. Mmh. Voilà. On ne parlait pas du tout de santé mentale parce qu'on n'avait pas conscientisé qu'il y avait une santé mentale.
Oui.
Maintenant, on a conscientisé qu'il y avait une santé mentale, donc on peut en parler. C'est le principe de l'évolution. Et je trouve ça super. Je trouve ça super que ça existe, qu'on se questionne et qu'on essaie de respecter cette nouvelle chose qu'on dit et qu'on appelle santé mentale. Je ne vois pas... Oui, je crois que c'est important.
Qui est santé tout court, hein, finalement,
oui,
selon moi.
Oui, c'est ça.
Et en préparant notre rencontre, j'ai évidemment reçu ta petite bio, où tu es présenté comme un jeune compositeur et chanteur LGBT.
Ouais.
Est-ce qu'en 2024, c'est une information qu'un ou une artiste peut partager librement ? C'est-à-dire sans crainte pour sa carrière, quoi.
Bon, moi, je le fais. Peut-être qu'il faudrait pas faire. Moi, je le fais. De toute façon, il y a qu'à écouter mes chansons pour voir que je suis LGBT. Je veux dire, je parle d'histoire d'amour entre hommes dans quasiment chacun de mes titres, ou en tout cas d'histoire entre hommes dans chacun de mes titres. Mes visuels sont des visuels qui existent dans une esthétique queer. Enfin, moi, je suis à cet endroit-là de toute façon, et j'ai plus fait le choix de le dire pour qu'on puisse identifier le projet aussi. Puis parce que pour moi, c'est important d'affirmer ça. Ça fait partie de mon identité comme le reste d'ailleurs, mais ça fait aussi partie de mon identité. Oui, sûrement qu'aujourd'hui, il y a encore des dynamiques qui réduisent peut-être l'accès. Peut-être que c'est très catalogant aussi. Peut-être que ça a un effet. On se dit, ah tiens, c'est un artiste LGBT. Moi, je ne fais pas ce genre de musique, donc... Alors qu'en fait, un artiste LGBT peut faire tous les types de musique. Enfin, c'est rien, c'est... Mais moi, je le dis parce que ça existe dans l'identité de ma musique, un endroit qui est presque... un endroit thématique aussi.
Je te pose cette question parce qu'évidemment, sans nommer quiconque, ça n'a aucun intérêt, mais on le sait qu'il y a des artistes LGBT qui ne le revendiquent pas, oui, et vont tout à fait chanter des chansons hétérosexuelles et puis qui donnent l'impression au public qu'ils ou elles sont hétérosexuels. Et sans doute, sans parler à leur place, pour que leur carrière se porte mieux, enfin en tout cas qu'ils soient acceptés par le plus grand nombre.
Bah, effectivement, dans une carrière musicale, au bout d'un moment, il y a aussi un rapport au public qui se pose. C'est-à-dire que si le public t'écoute plus, bah évidemment, ta carrière va décoller. Donc, est-ce que le public écoute plus ou moins les artistes LGBT? Ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai décidé aussi de le faire parce que quand j'étais jeune, je souffrais énormément du fait qu'il n'y avait pas d'artistes gays.
C'est pour ça que je... Ouais. Enfin, que je le salue, là, je ne le disais pas, mais c'est que je me suis dit, en recevant ta bio, chouette, enfin, en fait, c'est important.
Oui, et c'est aussi pour ça que je parle frontalement d'histoire d'amour dans mes chansons, je montre aussi l'agression sexuelle dans le clip, je fais parce que en fait je crois qu'on a besoin de voir les gens qui vivent les choses, ils ont besoin de voir que ce sont pas les seuls en fait. Pourquoi ? Ça, c'est une question. Mais ils ont besoin. Moi, en tout cas, j'étais jeune, j'avais besoin de je cherchais les films dans lesquels on montrait les histoires d'amour avec les garçons. Et j'ai plus chez le net. Je cherchais les livres aussi qui parlent d'histoires homosexuelles masculines parce que peut-être que j'étais aussi à la recherche de ma propre identité. Je comprenais pas très bien ce qui m'arrivait, que du coup j'avais besoin d'une certitude ou de me voir représenté quelque part. C'est un peu, je crois qu'on a besoin de se voir pour se comprendre.
C'est le privilège hétérosexuel, c'est que moi je suis une femme hétérosexuelle et je me suis vue partout hein, depuis la naissance. Il y a un gros problème de représentation, mais enfin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en termes de films, séries et livres, ça a beaucoup évolué pour un ado d'aujourd'hui.
Oui, Dieu merci, oui. Mais moi, quand j'étais ado, donc en 2013-2014, ça bougeait déjà un peu, mais c'était pas encore tout à fait aussi mainstream que maintenant ça l'est. Ça se déplace, évidemment, oui. Aujourd'hui, je pense que les ados ont beaucoup plus accès, en tout cas, à des représentations des minorités de genre, des minorités sexuelles. Évidemment, oui.
Alors, ça progresse, mais j'imagine que tu as suivi un petit peu l'actualité du remaniement ministériel.
Oui.
Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, eux, n'auraient pas suivi, Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal, qui devient donc le premier ministre gay. Mais Gabriel Attal a nommé 6 ministres considérés comme homophobes par les associations LGBTQIA+. À titre d'exemple, la ministre de l'Égalité et de la Lutte contre les Discriminations est Aurore Berger, qui a milité contre le mariage pour tous et toutes et les droits des personnes trans. Je te vois sourire. Tu en dis quoi de tout ça?
Est-ce qu'il faut en dire quelque chose? Ça, je sais pas. Après, je sais pas si ce gouvernement n'est pas à une contradiction près. Ce qui est sûr, c'est que je crois que quand même ça fait quelque chose qu'il y ait un premier ministre gay. Je crois que ça opère aussi. Après, bon, évidemment, faut se demander ce que ça provoque chez les gens qui sont LGBT de nommer au gouvernement des gens qui ont été publiquement hostiles envers la communauté LGBT. Qu'est-ce que ça dit d'un gouvernement quand il prend dans ses rangs des gens qui ont défendu... qui se sont battus contre le mariage pour tous. Qu'est-ce que ça dit d'un gouvernement qui fait ça? Donc bon, c'est vrai. Voilà, moi je personnellement, c'est vrai que j'étais aussi. Enfin, il y a tellement de choses politiquement qui se passent en ce moment, donc j'ai été un peu.
Bien sûr. Voilà. Il nous faudrait une heure pour pour les détailler.
Mais non, effectivement, c'est assez mystifiant. Peut-être on peut conclure ça comme ça.
J'aime bien ce mot.
Oui, je trouve que ça mystifie. Je pense qu'en tout cas, on n'est pas encore arrivé. Enfin voilà, peut-être qu'il faut être positif. Peut-être qu'il faut être positif. Il faut dire que c'est un premier pas, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Peut-être qu'il faut dire les choses comme ça.
Est-ce que l'homophobie pourrait être un thème qui t'inspire pour une future chanson ?
Moi, je fonctionne pas tellement par thème. C'est-à-dire que, enfin, je me permets de revenir juste sur cette question du gouvernement.
J'ai
l'impression d'apparaître très léger quand je dis ça.
Non, mais alors, on n'est pas sur podcast politique, mais je voulais quand même t'en parler.
Non, complètement, mais en fait, je suis évidemment, enfin, vraiment perturbé par ça. Mais c'est vrai que comme je le dis, j'ai pas trop les mots en fait. J'ai du mal à penser cette situation, et je pense que je suis pas le seul d'ailleurs à avoir du mal à penser ces ambiguïtés là gouvernementales. Et c'est vrai que du coup, quand j'en parle assez vite comme ça. On peut peut-être se dire que je le prends pas au sérieux. Je le prends vraiment au sérieux. Je suis aussi un peu placé dans une forme, un, d'impuissance, puis deux, comme je le dis, c'est vrai, de sidération. Ce mot mystifié est vraiment choisi dans le sens où je sais pas très bien quoi faire.
Oui, je l'avais entendu comme ça.
Mais pour revenir sur cette chose de l'homophobie, c'est vrai que moi, je travaille pas tout à fait par thème. C'est-à-dire que j'écris vraiment à partir de mon expérience personnelle. Ou en tout cas de ma sensibilité personnelle. Et évidemment que, bah voilà, je vis l'homophobie comme beaucoup de personnes LGBT aujourd'hui en France. Il y a une chanson dans le prochain EP qui parle d'une volonté justement un peu de lutte par rapport à ça. J'en dis pas trop. Mais ça existe parce que ça existe dans ma vie en fait. La démarche, c'est pas du tout de prendre un thème et puis d'en faire une chanson.
Oui.
C'est vraiment de partir de cette sensibilité personnelle puis de la travailler dans un espace qui est celui de la musique par le médium qui est celui de la musique et de voir comment est-ce que après voilà moi dans mon travail de musicien et dans le travail que je fais au sein du label, on arrive à donner un corps et une existence musicale à cette sensibilité-là. Mais évidemment, oui, l'homophobie, c'est quelque chose qui traverse mon travail. Absolument.
Alors, tu viens de nous teaser un petit peu sur cet EP. Avant de te quitter, est-ce que tu peux nous dire ce que 2024 te réserve ? Un premier EP, donc ?
Eh bien, oui, du coup, j'espère que... Normalement, oui. Normalement, il devrait y avoir ce premier EP qui devrait voir le jour en... Je ne vais pas trop m'avancer, mais qui devrait voir le jour... Et donc ça c'est au niveau de la musique, puis moi je continue mon travail d'écriture dramatique qui en plus en ce moment représente quasiment la totalité en fait de ma production.
D'accord.
Donc bah oui, là-dessus il va y avoir une lecture de ma dernière pièce Jusqu'aux cendres qui est pensée, réfléchie et qui va bientôt arriver, et puis je suis sur l'écriture aussi d'autres textes qui sont un peu moins lancés dans leur projet de production, mais qui vont sûrement arriver bientôt aussi.
Génial, on va suivre tout ça avec attention et notamment sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Paul Vermersch, aka Paulon, d'être venu répondre à mes questions et surtout de permettre de lever ce tabou autour des violences sexuelles.
Merci à toi Chloé.
J'espère que vous avez aimé votre pause café. C'était Chloé Thibault. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Kawa et tous les jeudis dans la newsletter La Pause Simone. À bientôt.